Vous écoutez Choc FM 105.1, ici Guillaume Laurin avec notre correspondant, le professeur Norman Cornette, maintenant pour évoquer la question épineuse de l'avortement aux États-Unis chez notre voisin du Sud, avec la parution de ce documentaire qui fait actuellement grand bruit, intitulé Aka Jane Roe, un documentaire qui ébranle les pro-vie actuellement. Professeur Cornette, bonjour.
Bonjour, merci pour cette invitation, Monsieur Laurent. En effet, dans les médias des États-Unis et dans les milieux de la droite religieuse, des conservateurs catholiques et particulièrement chez les évangéliques blancs, ce documentaire équivaut à un tsunami, puisque on l'a filmé la dernière année de la vie de Jane Roe, dont le nom vrai était Norma McCorvey, et à la fin du film, pendant les 20 dernières minutes, elle avoue que elle-même est restée pro-choix. Et elle était bien d'accord toute sa vie avec l'avortement pendant le premier trimestre.
Donc, et c'est ça. Pour peut-être remettre en contexte, est-ce que vous voulez rappeler qui est cette Jane Roe en quelques mots et
son
histoire?
Oui, tout à fait. Alors, Jane Roe était une dame qui, en 1971, a porté plainte. Elle voulait avoir un avortement pour son troisième enfant. Et je tiens à souligner à l'auditoire de Choc FM, la Jane Roe, aka Norma McCorvey, n'a jamais eu de sa vie un avortement.
Eh oui.
Donc, une ironie quand même. Et chacun de ses enfants, le premier, elle a mis entre les mains de ses parents, et les deux autres enfants qui ont suivi, elle les a mis immédiatement en adoption. Et c'était le cas quand elle est tombée enceinte en 1971. On a porté plainte avec deux avocats qui voulaient tester le droit à l'avortement dans l'État du Texas et dans l'ensemble des États-Unis. La Cour suprême des États-Unis a rendu le jugement en 1973. Ce jugement fait date. Il s'agit de la jurisprudence pour les 50 États. Les femmes ont bel et bien droit à l'avortement. Donc, elle est devenue en quelque sorte héros des pro-choix.
Oui.
Mais elle avait un passé trouble, Monsieur Laurent. Et donc, elle avait très, très peu d'éducation. Et elle a quitté la maison de ses parents. Elle s'est enfuie à l'âge de 10 ans. Elle était dans une école pour les délinquantes, si vous voulez bien. C'était une femme très peu cultivée. Elle a fait beaucoup d'entrevues parce qu'elle est devenue en quelque sorte la championne du camp pro-choix. Et ça, en partie à cause de l'avocate pro-choix, une des plus connues, Gloria Alfred, qui a vraiment présenté Jane Roe. Et elle s'est dévoilée. Il faut dire que Norma McCorvey, elle aimait beaucoup que les feux soient braqués sur elle.
Mm-hmm.
Ça lui a fait, elle est devenue une vedette par le fait même, parce que elle s'est dévoilée au grand public. Donc elle a quitté l'anonymat et puis elle s'est présentée et elle a commencé à faire des entrevues sur les grandes chaînes de télévision, l'importance du droit à l'avortement pour toute femme, en tout temps et en tout lieu. Mais en 1983, elle avait dit lors d'une entrevue que cette troisième grossesse pour laquelle elle demandait l'avortement au Texas, que c'était à cause, on l'avait violée.
Oui.
Or, quelques années plus tard, lors d'une autre entrevue, il y a un silence radio, puis elle avoue que c'était un mensonge. et que c'était elle de son propre gré, elle avait eu des relations et il ne s'agit nullement d'un viol. Ouais. Or, du manque d'éducation, des contradictions dans l'espace public et devant les médias, vous comprenez bien que le camp pro-choix a pris ses distances de Jane Roe, de Norma McCorvey. On se demandait à quel point est-ce qu'elle était fiable, et surtout comme quelqu'un a présenté au grand public comme le paradigme pro-choix.
Et pourtant, professeur Cornette, elle a ensuite décidé finalement de changer de camp avec sa conversion, je crois, au catholicisme.
Oui, en fait, il y a quelques conversions, on en parlera justement. C'est-à-dire que suite à son aveu qu'elle avait menti, le camp pro-choix l'a écarté. Et ça, elle l'a pas pris. Mm-hmm. Elle n'a pas accepté. Puis, évidemment, quand vous êtes avec l'élite féministe américaine, les femmes avocates, les femmes qui ont fait des études supérieures, les femmes de la bourgeoisie, les femmes progressives, libérales, à l'avant-garde du mouvement féministe, et qu'elle, elle était d'une famille, mais très, très modeste, voire pauvre, et qu'elle était très souvent en chômage. En plus, faut-il dire qu'elle avait une relation lesbienne, et donc, pour les chefs du pro-choix, elle est devenue en quelque sorte un fardeau. Donc ils l'ont écarté. Et dans le film AKA Jane Roe, on voit très bien que ça l'a profondément affectée. Or, au Texas, alors qu'elle faisait du service bénévolement dans une clinique d'avortement, il y a le Operation Rescue, qui est maintenant Operation Save America, ont établi des bureaux. Et le chef de ce bureau-là, qui est un des évangéliques très connus dans le mouvement pro-vie, eh bien, il a tissé des liens d'amitié. Et en 95, elle devient évangélique, née de nouveau, un chrétien baptisé avec toute une cérémonie, et puis là, elle recommence le cycle médiatique, c'est la conversion, et puis d'ailleurs, j'invite l'auditoire de Choc FM, vous faites une recherche Google avec Norma McCorvey, et vous allez voir les plus grandes stations de télévision qui font des entrevues, et en plus, là maintenant, elle est devenue le fer de lance du camp pro-vie. Un point tel, Monsieur Laurent, qu'en 2005, elle se présente devant le comité judiciaire du Sénat américain en demandant qu'on renverse la décision Roe v. Wade. Et elle est continuée comme ça. Il y avait quelques livres. Elle était conférencière. Mais ce qu'on ignorait, c'est qu'on l'a payé. Lui a payé cher, d'ailleurs, plus de 450 milliers de dollars américains.
C'est bien ça, c'est d'ailleurs la révélation de ce documentaire qui fait actuellement grand bruit. Madame McCorney est décédée en 2017. Elle était malade et elle a un peu considéré finalement ce documentaire, si je comprends bien, comme une confession en quelque sorte.
Oui, et qui plus est, elle a avoué que c'était une façade. Donc, on voit très bien, celui qui a tissé des liens d'amitié, l'évangélique, lui, il dit qu'il n'en était rien. Toujours est-il que le révérend Rob Schenck, qui est très connu dans les milieux évangéliques, et surtout les rapports entre les évangéliques et la classe politique, il a confessé, si vous voulez, que c'était bel et bien le cas, qu'on l'a payé. Et elle, dans ce documentaire, dit qu'il s'agissait d'un coup monté, d'une façade. On lui a dicté quoi dire, et elle le disait parce qu'elle disait Elle le dit dans le film. Je suis une excellente comédienne. Oui. Et donc la conversion, il n'en était rien. D'ailleurs, elle est restée avec son amie lesbienne de plusieurs années, Connie Gonzalez. Donc vous comprenez bien que chez les évangéliques, il fallait pas qu'elle avoue les liens lesbiens.
Oui, alors justement, donc, professeur Cornette, quelle est la réaction actuellement face à ce documentaire et à cette confession qui fait comme un coup de poing là pour les pro-vie? Cette personne semble donc avoir été toute sa vie une sorte de mythomane, en fait, une menteuse invétérée qui a changé de position et qui a décidé d'embrasser cette cause pro-vie anti-avortement contre de l'argent, alors que ce n'était pas sa conviction première. Aujourd'hui, j'imagine que le mouvement pro-vie prend ses distances avec elle.
Ébranlé. Chez les évangéliques, on est ébranlé, d'autant plus que le révérend Rob Schenck, il fait des entrevues et il confirme ce qu'elle dit dans le documentaire, aka Jane Roe. Mais il faut voir, et c'est ça, en tant que spécialiste en sciences des religions, je vois bien, ils ont emprunté à toute fin pratique le dicton « la fin justifie les moyens ». Et le révérend Rob Schenck, il avoue que grâce à son image, grâce à son témoignage, grâce à sa photo, qu'ils ont récolté des sommes très importantes d'argent pour la cause pro-vie. Donc, mais l'idée que un argument qui se voulait éthique et moral a recours à cette tactique que la fin justifie les moyens, sachant que c'était comme une comédie, une mise en scène. Ouais. Et ça pendant des années. Et d'autant plus que là, elle avoue candidement. Mais je crois qu'il faut aller plus loin. Et pour moi, ça va de pair, Monsieur Laurent, avec cette mentalité des télé-évangélistes, des charlatans qui se servent de la religion pour des fins pécuniaires, pour de l'argent. On se souvient tous aux États-Unis de Jim et Tammy Baker. Et si vous regardez les câbles américains, mais c'est plein des gens dont la religion, dont la morale et l'éthique et la façade, mais que le fond soit tout autre, c'est ce que dévoile ce documentaire.
Et en ce moment, en pleine crise sanitaire, alors que Donald Trump a décidé de réouvrir certains lieux de culte, est-ce que derrière, il n'y a pas ce même genre de calendrier?
Oui, il y a un... Et c'est ça, une bonne question. Quelle est l'importance, quelle est la charge affective, mais plus ça encore, de ce dossier Roe v. Wade, c'est que c'est devenu, Monsieur Laurent, le déclencheur, voire le catalyseur de ce que j'appelle l'évangélisme politique. Parce que d'ores et déjà, avec ce dossier-là, le jugement rendu en 1973, cela a eu l'effet de politiser les évangéliques. Donc, et quelle est la raison d'être de l'évangélisme? C'est de convertir. Mmh. C'est l'éthos, c'est l'esprit de l'évangélisme. Et or, de convertir, là je vais emprunter les expressions bergsoniennes du philosophe français juif Henri Bergson, qui a gagné le prix Nobel. Mm-hmm. Mais Bergson, il parlait de l'élan vital. Or, convertir, c'est l'élan vital du mouvement évangélique. Et quand on parle de ce qui s'est passé, Roe v. Wade a eu l'effet de politiser de sorte qu'on est passé de la conversion spirituelle à la conversion politique. Et c'est quand on regarde le paysage politique américain actuellement, eh bien, on voit très bien que vise l'évangélisme politique, comme je l'appelle. Il vise de convertir les lois des États-Unis. Rien de moins. D'ailleurs, ils attendent avec corps et âme le renversement de cette décision et il est fort possible qu'ils aient gain de cause parce qu'il y a deux juges à la Cour suprême des États-Unis actuellement qui ont plus de 80 ans, dont une, elle-même héros du mouvement féministe, Ruth Bader Ginsburg, qui malheureusement éprouve de grands, oui, de grands problèmes de santé, et l'autre juge. Or, à travers tout ce que Trump dit et fait, bon gré, mal gré, avec la COVID-19, l'évangélisme politique garde le cap sur la réélection de Donald Trump, et pour cause, parce qu'il veut qu'il nomme, comme il a fait avec Neil Gorsuch, comme il a fait à Brett Kavanaugh, ils veulent qu'il nomme deux juges encore à la Cour suprême pour remplacer ces deux-là. Et là, monsieur Laurin, il est très possible qu'on renverse la décision Roe v. Wade et ils n'attendent que cela. De plus, ils sont mobilisés dans un réseau légal et leur but, savez-vous, monsieur Laurin, l'évangélisme politique a un projet de société aux États-Unis. Ils veulent convertir les lois, ils veulent convertir la politique, ils veulent convertir les mœurs, donc sur le plan moral et sur le plan éthique, parce que quel est le principe opérateur de l'évangélisme, c'est un verset dans le Nouveau Testament des Écritures chrétiennes, tout assujettir au Christ. Il vise rien de moins d'assujettir la société américaine à l'évangile.
Alors c'est un dossier que l'on suivra avec l'élection américaine, mais pour terminer, professeur Cormette, derrière ce nom, ce pseudonyme de Jane Roe se cache donc tout le débat sur l'accès à l'avortement aux États-Unis. Qu'en est-il pour terminer chez nous au Canada? L'avortement est légal, mais est-ce que son accès y est toujours facile?
Ah, très bonne question. Vous savez que à Toronto même, là où vous êtes, il y a un Campaign Life Coalition, mm-hmm, et qui est anti-avortement, et on voit que c'est un reflet pâle, si vous voulez, du phénomène évangélique politique aux États-Unis. Et eux, ils veulent s'impliquer dans l'arène politique, et d'ailleurs, il y a des députés conservateurs, il y a des candidats conservateurs. Et dernièrement, un des candidats, Aaron O'Toole, s'est présenté ici au Québec. Ils veulent évidemment que le Parti conservateur ait des gains au Québec lors de la prochaine élection fédérale. Et puisqu'il s'agit d'un gouvernement minoritaire, ça pourrait se faire très bientôt quand même, relativement parlant. Or, et c'est très très intéressant, monsieur Laurin, plusieurs des candidats et surtout candidates précédentes de la dernière campagne fédérale ont accablé le Parti conservateur et son ancien chef, Andrew Scheer, de ne pas être clair et net, mmh, mmh, sur le droit à l'avortement. Et ils disent tant et aussi longtemps qu'ils ne tranchent pas clairement, eh bien, on va se trouver dans des eaux troubles, puisque pour bien des personnes au Québec, les femmes québécoises, le droit, l'accès à l'avortement, c'est un droit.
Rappelons que c'est seulement depuis 1988 que la Cour suprême du Canada a décriminalisé l'avortement au pays.
Alors, c'est à suivre. Mais je ne peux pas assez insister sur le fait à quel point ce phénomène de ce que j'appelle l'évangélisme politique vise rien de moins qu'un projet de société aux États-Unis afin de convertir l'Amérique sur des plans différents, les plans légaux, les plans politiques, les plans sociaux, les plans culturels. Et d'ailleurs, les évangéliques ont maintenant des studios de films qui des films très 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 accrocheurs. Alors on voit qu'ils prennent les grands moyens pour réaliser ce projet de société qui va de pair avec l'essence même de l'évangélisme, c'est-à-dire convertir toutes les sphères de la société américaine.
L'analyse de l'actualité internationale par le professeur Norman Cornette. Merci beaucoup, professeur. On reste sur les ondes de Choc FM 105.1.